Radio Okapi.
C'est l'heure de suivre les informations avec la présentation Jacques-Yves Molima.
La rentrée scolaire 2022-2023 est bel et bien prévue pour ce 5 septembre. À cet effet, les chefs de direction de trois provinces éducationnelles que compte le Congo central demandent aux parents d'envoyer les enfants à l'école dès 7h et aucune absence des enseignants ne sera tolérée. Affrontement hier mercredi entre les FARDC et les groupes armés Codeco à Mongwalou, à 85 km au nord de Bounia. 22 personnes sont mortes, dont 8 miliciens et environ 60 maisons et boutiques incendiées. Pour l'instant, les FARDC contrôlent Mongwalou et poursuivent les patrouilles dans cette entité minière. Enfin, dans la province du Tanganyika, il est strictement interdit de transporter les passagers au-dessus des marchandises dans des véhicules qui sont surchargés. Pour parler de cette décision, nous recevons dans cette édition Cyprien Katombe. Il est le ministre provincial des Transports et voie de communication. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. La rentrée scolaire aura bel et bien lieu ce lundi 5 septembre, conformément au calendrier rendu public par l'autorité des tutelles sur toute l'étendue du territoire national. Les chefs de direction de trois provinces éducationnelles que compte le Congo central l'ont confirmé à Radio Okapi ce jeudi matin. Ces derniers demandent aux parents d'envoyer les enfants à l'école dès ce lundi à 7h, tout en précisant qu'aucune absence des enseignants ne sera tolérée. Le point avec Nana Plurichimambu.
Les directeurs des trois provinces éducationnelles du Congo central que nous avons contactés sont unanimes sur la question liée à la date de la rentrée scolaire. Pour eux, la reprise des cours est bel et bien fixée pour ce 5 septembre. Aucun report n'est envisagé, comme le confirme le prophète du Congo central 2, Jean Tshisekedi Kabasele.
Je vous affirme que la rentrée scolaire aura lieu le 5 septembre, selon le calendrier scolaire qui a été rendu public. Quant à tout ce qui se rencontre dans des couloirs, nous les qualifions comme des vastes blagues. Et je demande à tous les chefs d'établissement de ma juridiction d'être présents le 5 septembre dans leurs écoles respectives.
Cette folle rumeur sur les reports de la rentrée scolaire a aussi une incidence sur la vente des fournitures scolaires. Dans les différents sites de vente que nous avons parcourus, un ralentissement est observé. Témoignage.
La vente s'est faite à compte-goutte. On ne sent pas que c'est la dernière semaine de la rentrée.
À quelques heures de cette reprise des cours, dans bon nombre d'établissements scolaires publics de Matadi, il n'y a aucune préparation qui s'est faite en termes d'entretien des salles de classe, des latrines ou même de la cour des écoles. Seuls les bureaux sont ouverts pour les inscrits. Des élèves. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Dans la province du Maïndombé, la rentrée scolaire prévue le 5 septembre ne sera pas possible en cette date dans le territoire de Kwamout. C'est ce qu'a dit le ministre provincial de l'EPST, Ambroise Kélé. Selon lui, c'est parce que plusieurs écoles ont été incendiées et les populations sont en déplacement à cause des violences occasionnées par le conflit Teke et Yaka qui a éclaté depuis un certain temps. Il plaide auprès du gouvernement central pour imposer la paix dans cette partie, reconstruire les écoles, afin que les élèves reprennent le chemin de l'école, même en retard. Ambroise Kélé, ministre provincial de l'EPST du Maïndombé, l'a dit à Irène Bouma.
La situation de Kwamoutou est préoccupante. La population est en exil. Il y a un groupe qui s'est allé jusque dans le territoire de Yumbi, territoire de Bolobo, et il y a les autres qui ont traversé vers le Congo en face. Le fait que la rentrée est prévue en date du 5 septembre, c'est tout un problème. Que la population rejoigne facilement leur pénate pour que les enfants puissent rejoindre l'école. Je pense que du fait que tout le monde connaît la situation de Kwamoutou, la rentrée serait un peu tardive. Il y a des écoles qui sont incendiées. Vous voyez comme la population est en déplacement. À quand ils seront de retour pour construire une fusée de hangar? C'est ça le problème qui nous préoccupe, la situation de Kwamoutou. Vraiment, le gouvernement central doit s'en occuper, doit prendre ça en charge, en considération pour qu'on construise les écoles. Comme il y a des écoles qui sont incendiées, alors comment ces enfants vont étudier? Et à quand ils vont débuter? Il faut qu'il ait l'implication du gouvernement central.
Autre nouvelle, le comité d'acheteurs et évacuateurs de produits agricoles, CEPA, dénonce la revue à la hausse de la taxe sur cargaison de maïs qui quitte Mweka au Kasaï pour Kananga au Kasaï central. Alors que l'arrêté du gouverneur du Kasaï fixe cette taxe à 192 000 francs congolais, le chef de centre de perception de DERCAS l'a ramené à 300 000 francs congolais. Cette situation crée une confusion et les commerçants s'opposent au paiement de cette taxe, soutenant qu'un communiqué d'un chef de centre ne peut pas annuler une décision de l'autorité provinciale. Le président du CEPA appelle les autorités du Kasaï à résoudre ce problème pour permettre l'évacuation des maïs de Mweka dans les wagons vers Kananga. Georges Mukenge l'a dit à François Kadima.
Nous demandons, nous, c'est à l'État, c'est de nous éclairer la situation et d'éviter aussi de mettre de barrières devant nos actions. L'arrêté d'un gouverneur, c'est une décision officielle, mais qui ne peut pas être annulée par les communiqués d'un chef de centre à Mweka. Or, la province du Kasaï a autant de centres de perception d'impôts. Il y a le centre à Ilebo, le centre à Dekessé, le centre à Kamogne, mais un chef de centre va lancer un communiqué qui annule l'arrêté du gouverneur. Nous voulons que le gouverneur de province de Tshikapa trouve solution à cette décision qui est prise pour nous de manière illégale par le chef de centre et aussi arriver jusqu'à faire les recouvrements avec des policiers dans les installations de la SNCC. Et c'est vraiment notre inquiétude. Nous voulons que l'État intervienne dans cette situation.
Face à cette situation, le ministre provincial de l'Agriculture a promis de discuter avec son collègue des finances de qui dépend la DERCAS avant de fixer l'opinion. Après le gasoil et l'essence qui avaient perturbé les transports terrestres, c'est aujourd'hui le manque du kérosène qui perturbe les transports aériens en République démocratique du Congo. Des compagnies d'aviation connaissent des perturbations des programmes de vols domestiques et internationaux de Ntambizoni.
Ce manque de kérosène a tellement dérangé que Congo Airways, la compagnie nationale, a présenté ses excuses à sa clientèle à travers un communiqué d'il y a quelques jours. La CAA, qui exploite aussi l'espace congolais, en a souffert. Plusieurs vols ont été annulés pour la même cause. Témoignage d'un agent commercial de CAA.
Ce fait-là de manque de carburant est réel. Ça fait en sorte que les vols sont reportés de temps à autre et ça cause de graves désagréments vis-à-vis de clients. Donc quelqu'un avait son programme pour telle date et on reporte le vol. Voyez un peu ce que ça donne.
Le 22 août, la compagnie SN Bruxelles a annulé son vol au départ de Kinshasa pour manque de kérosène et la liste n'est pas exhaustive. Mais à notre passage ce mercredi, la SN Bruxelles dit que depuis, tout est redevenu à l'ordre. Pour faire face à cette situation à Kinshasa par exemple, certaines compagnies aériennes ont revu à la hausse le prix du billet pour les vols domestiques. Ainsi, les billets sont augmentés de 35 dollars pour le billet Kinshasa-Lubumbashi et Kinshasa-Goma pour assurer l'achat du kérosène. La même perturbation des vols est très ressentie à Mbujimayi dans le Kasaï oriental. Cependant, à Goma dans le Nord Kivu, le commandant de l'aéroport a attesté qu'aucune compagnie ne se plaint pour l'instant et que tous les vols sont effectifs. Il dit aussi que Goma s'approvisionne auprès de trois sociétés, dont SEP Congo et Congo Petrol.
Autre nouvelle, en Ituri, 22 personnes sont mortes, dont 8 miliciens, mercredi pendant les affrontements entre les FARDC et les groupes armés Codeco à Mongualou, c'est à 95 km au nord de Bounia dans le territoire de Djougou. On signale également des dégâts matériels importants, environ 60 maisons et boutiques incendiées et les commissariats de la police saccagés. Selon des sources concordantes, toute la commune de Mongualou est actuellement sous contrôle de l'armée qui poursuit les patrouilles dans cette entité minière. Isaac Remoyope.
Les miliciens de la Codeco s'étaient introduits mardi vers 11h dans trois quartiers de Mongualou. Ils ont occupé ces coins jusqu'à la nuit tombée avant d'être repoussés par les FARDC. Les combats ont repris mercredi matin entre les deux parties et on dirait environ 5h. Selon des sources de sécurité, 13 civils composés essentiellement des orpailleurs ont été tués par ces groupes armés et 4 autres blessés. L'armée a neutralisé 8 miliciens de la Codeco, dont les commandants des opérations de cette milice et 11 autres ont été blessés. Du côté de l'armée, il y a un mort, affirme les mêmes sources. Ces miliciens ont également incendié 41 maisons et 18 boutiques dont les propriétaires avaient fui pendant les combats. Ils ont également mis les feux au bureau du service des renseignements et saccagé le commissariat de la police de Mongualou. Après cette défaite, ces miliciens se sont retirés dans leur bastion à Brésil, Digene et Mbao, ajoutent des sources locales. Pour le moment, un calme s'observe dans cette commune rurale pendant que les FARDC poursuivent l'opération de ratissage. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, 19 personnes tuées, plusieurs autres disparues, ainsi que des biens de la population emportés. Tel est le nouveau bilan de la dernière attaque mardi des rebelles des ADF à Biakato et sa périphérie dans la chefferie des Babila Babombi, dans les territoires de Mambasa. Selon la société civile locale, les victimes ont été abattues pendant leur fuite lors de l'incursion de ces rebelles. De leur côté, les sources militaires affirment avoir neutralisé 6 ADF. Ezekiel Mouzalia.
Les rebelles des ADF venus de la région de Luna Samboko au sud du territoire d'Irumu ont fait incursion mardi au centre de Biakato à 75 km de Mambasa centre. Après avoir traversé les villages de Samboko, Mamuo et Ndombilo, l'ennemi a progressé vers la Lia à la périphérie de Biakato centre où il a commis plusieurs exactions. C'est par exemple le meurtre de 5 personnes qui revenaient du champ. L'armée est intervenue pour freiner leur progression vers Biakato centre. Selon un acteur de la société civile de la place, c'est dans leur fuite que ces rebelles ont tiré sur les civils qui se dirigeaient vers Beni au nord Kivu. 19 corps ont été récupérés après ces fusillades. Un chiffre que l'administrateur du territoire de Mambasa ne confirme pas. Il ajoute que le rapport fourni par ses services révèle que 14 corps sans vie ont été découverts mercredi pendant la fouille. Contacté, des sources militaires du côté du nord Kivu, dont dépendent de plusieurs entités de Biakato, affirment avoir neutralisé 6 ADF au cours des échanges de tirs et récupéré leurs armes. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis au Kwango, l'ONG Engagement communautaire contre le VIH SIDA et la maltraitance de l'enfant, ECVM en sigle, basée dans la ville de Kenge, condamne fermement les tueries occasionnées par les violences liées au conflit interethnique entre les Teke et les Yaka dans la province du Maïndombe, précisément dans le territoire de Kwamoto. Dans une déclaration devant la presse, cette structure s'est dit très préoccupée et invite toutes les deux parties à la retenir et mettre fin à ce conflit au nom de la paix, car le dit conflit freine le développement de ces deux provinces. Un extrait de cette déclaration lu par Lucien Loufoutou, coordinateur du ECVM Kwango, qui vous est proposé par Irène Mboma.
Les cas du récent conflit qui affecte la région ouest. C'est inadmissible d'assister actuellement à des tueries, des décapitations sans explication fondamentale, plus précisément entre les Teke, les Maïndombe et les Yaka du Kwango, qui depuis l'histoire cohabitent sans problème. Nous condamnons et désapprouvons avec la dernière énergie ces actes de barbarie, mais la Task Force Communication Provinciale du Kwango invite les habitants de la partie ouest du pays de mettre fin à ces pratiques inhumaines au profit de la promotion de la paix. Nous invitons toutes les parties en conflit d'éviter sacrifier ou manipuler les enfants dans ces conflits car ils ont droit à la protection. Nous demandons également à tous nos frères et sœurs Teke et Yaka de cesser les hostilités et de revenir à la paix habituelle tout en se pardonnant mutuellement car cela freine le développement harmonieux de notre espace géographique.
Ce journal se poursuit, direction Sud Kivu. L'atelier sur la restauration de la confiance et de la collaboration entre la MONUSCO et la population du Sud Kivu s'est clôturé ce mercredi 31 août à l'hôtel Le Panorama à Bukavu. Plusieurs recommandations ont été formulées par les parties prenantes pour apaiser la tension observée autour de la présence de la MONUSCO dans la partie est du pays. Parmi les principales recommandations, la mise en place d'un cadre de dialogue et d'échange sur les axes prioritaires du mandat de la MONUSCO, mais aussi combler les déficits de communication sur le travail de la MONUSCO en rapport avec la protection des civils. Les travaux présidés par le gouverneur de province ont réuni les autorités politico-sécuritaires, les représentants de la communauté et de la société civile dans toute leur diversité. Plus de détails avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Cet atelier avait pour objectif de décortiquer les causes à l'origine de récentes attaques contre la MONUSCO. Les causes épinglées par plusieurs participants sont entre autres l'insécurité persistante, le déficit de communication autour du travail de la MONUSCO, mais aussi le régime de notification sur les armes imposé à la RDC par le Conseil de sécurité. D'où la nécessité de mettre en place un cadre de dialogue et d'échange permanent entre la MONUSCO et ses partenaires. Cécilia Piazza, chef de la MONUSCO au Sud Kivu.
Cela va nous permettre de nous connaître davantage dans l'action et de consolider cette relation de confiance nécessaire à notre travail.
Les recommandations issues de ces assises devront permettre de sauver l'essentiel dans cette période de transition. C'est le souhait du gouverneur du Sud Kivu, Tongabidje Kassi.
Que les recommandations assorties de ces échanges soient communiquées objectivement à nos bases respectives, tout en privilégiant aussi une certaine éducation au patriotisme par des revendications légitimes et par des moyens non violents.
D'ores et déjà, des parties prenantes à l'atelier se sont engagées à mener des activités de sensibilisation sur le plan de transition qui doit aboutir à un départ ordonné de la MONUSCO. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis le régime d'embargo ou des notifications sur les armes de l'ONU doit être aussi imposé aux États voisins qui soutiennent les groupes armés en RDC. C'est ce que préconise Trésor Maéché, professeur de droit international à l'Université catholique de Bukavu. Il a dit dans le cadre de notre série sur la résolution 2641 qui applique le régime des notifications aux fournisseurs d'armes de la RDC. Résolution adoptée en juin 2022 par le Conseil de sécurité. Pour sa part, le professeur Augustin Kaindo Mouessi, enseignant des sciences politiques à l'université de Goma et à l'université catholique de Graben de Butembo, Nord Kivu, pense que la RDC devra encore fournir plus d'efforts pour contrôler les mouvements d'armes en interne et sanctionner les officiels qui seraient impliqués dans leurs transactions avec les groupes armés pour déstabiliser la région. En faisant ainsi, la RDC pourra convaincre davantage la communauté internationale afin d'obtenir la levée complète du régime des notifications d'armes.
Actualité internationale.
En Centrafrique, comme annoncé, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, regroupement des principaux partis de l'opposition centrafricaine, a formellement saisi ce mercredi la Cour constitutionnelle. Il attaque le décret présidentiel daté du 26 août dernier portant création d'un comité de rédaction d'une nouvelle Constitution. Et puis, un réacteur nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporizhia, sud de l'Ukraine, a été arrêté en raison des bombardements russes, a indiqué jeudi l'opérateur ukrainien de centrales atomiques Energoatom, alors qu'une inspection de l'AIEA est attendue sur le site.
L'invité.
Il est strictement interdit de transporter les passagers au-dessus des marchandises dans des véhicules qui sont surchargés. Telle est la décision prise lundi dernier par le ministre provincial de Transport et Voies de Communication de la province du Tanganyika. La raison de cette mesure est de protéger les vies humaines contre des accidents. Cyprien Katombe est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient ici avec Paulin Munanga. Suivez.
Monsieur le ministre Cyprien Katombe, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pris une décision qui interdit à certains véhicules de transporter des passagers au-dessus des marchandises qui sont surchargées. Est-ce que vous avez pris le temps d'informer les responsables des différents véhicules qui font des longs trajets, notamment dans différents territoires ici dans le Tanganyika?
Cette mesure a été prise déjà bien avant avec mon prédécesseur que j'ai remplacé. Donc, je me suis juste inscrit dans la ligne logique. Mais sinon, tous les concernés étaient d'abord appelés avant dans mon cabinet. J'ai eu un entretien avec eux. Il y a eu les représentants de Brassimba, Brassicole, les représentants des propriétés des véhicules, ainsi de suite. Nous avons échangé avec eux. Ils avaient même demandé un moratoire par rapport à la prise de cette décision, mais je les ai tout simplement rappelé que c'était une décision qui était prise depuis longtemps. Alors je ne fais que appliquer ce qui a été pris par mon prédécesseur.
Alors, comme c'est une mesure qui existe déjà, pourquoi est-ce que vous avez voulu rappeler cela?
J'ai rappelé cela parce qu'il n'y avait pas de suivi, ainsi que de mesures d'accompagnement. C'est ainsi que j'ai rappelé, en concertation avec l'autorité provinciale, qui a voulu que la vie de sa population soit protégée, parce que nous avons constaté avec ces modes de transport, les utilisateurs de ces transports qui, non seulement ils font ce qu'on appelle les surchargements, mais ils mettent également les personnes au-dessus. Et quand il y a des accidents qui surviennent souvent, vous allez voir, c'est la personne qui tombe, les passagers qui tombent, et la marchandise vient au-dessus de cette personne. Et c'est les autorités qui sont appelées à tout moment, parce qu'il y a multiplicité de cas d'accidents, et il y a beaucoup de morts que nous enregistrons. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de rappeler encore cette mesure qui a été prise par ton prédécesseur.
Quelles sont les mesures d'accompagnement qui vont suivre votre décision? Parce que pendant plusieurs mois, cette mesure n'a jamais été respectée. Il y a de grands camions qui sont surchargés et qui prennent même des passagers au-dessus des marchandises.
Le premier moyen, ou soit mesure d'accompagnement, c'est d'abord la mobilisation de tous les services œuvrant dans les secteurs de transport, notamment la PESER, nous avons la Commission nationale de la prévention routière, nous avons tous les services de Transcom qui doivent travailler en collaboration avec le ministère pour faire que cette mesure ne puisse pas souffrir d'aucune inexécution. Donc tout le monde est instruit à son niveau de faire application de cette mesure.
Et il faut des moyens de transport appropriés pour transporter la population. Mais dans les six territoires du Tanganyika, tout le monde le sait, il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de véhicules pour transporter la population. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça?
Nous avons déjà un grand nombre de véhicules au niveau de Kalemie qui font ce mode de transport interterritorial.
C'est quelle sorte de véhicule?
Bon, par rapport à la marchandise, il y a ceux qui utilisent les gros camions. Souvent, il y a la société Brasimba qui a plusieurs. Il y a aussi d'autres transporteurs privés qui ont des camions. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ces camions transportent tout simplement la marchandise, mais ils transportent aussi les passagers au-dessus de ces marchandises. Or que nous avons des véhicules appropriés, réservés juste au transport de passagers, notamment les Land Cruiser, ainsi que d'autres véhicules appropriés par rapport à cela. Mais ce que nous décrions, ce qu'on transporte, et les marchandises ainsi que les personnes au-dessus.
Monsieur le ministre, il y a un problème qui va aussi se poser par rapport à votre mesure. C'est notamment des véhicules qui proviennent d'autres provinces. Parce que dans d'autres provinces, je suppose qu'il n'y a pas cette mesure. Et lorsqu'il y a des gens qui sont au-dessus de la marchandise, au-dessus des camions, et qu'ils pénètrent dans la province du Tanganyika en provenance d'autres provinces, et comment est-ce que ça va se passer?
Bon, notre mesure vise d'abord à protéger tout le monde. Nous sommes là pour protéger notre population qui vit non seulement dans cette province, mais également en dehors de la province. Cependant, ceux qui viennent d'autres provinces, la première des choses est de se conformer par rapport à la décision prise par nous qui sommes ici.
Monsieur le ministre Cyprien Katombe, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination d'Élisée Tikota et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci également à vous pour nous avoir suivis.